première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Ce week-end et même ce vendredi marque l'ouverture de la véritable fête du livre au musée de Marimont. Alors c'est une tradition qui dure quand même depuis plusieurs années, plusieurs décennies même. Alors à la fois des livres de créateurs qui sont issus justement du monde de la micro-édition, de graveurs, d'éditeurs, de passionnés du livre qui viennent à la rencontre du public, présenter un petit peu leur production, échanger un petit peu leur passion pour le métier. Et de l'autre côté, une exposition qui s'appelle Le Livre, Variation et Déclinaison. Déjà la quatrième édition, où là on présente les productions, les créations, les interprétations et les techniques, quelque part, qui sont liées à l'atelier du livre, liées au musée de Marimont. Alors pour nous en parler, on a d'un côté Nadia Corazzini et Anne-Françoise Rasseau du musée de Marimont.
Deuxième marché du livre à Marimont. C'est 18, 19 et 20 octobre. Demain, 18 octobre, à partir de 16h. Et le livre Variation et Déclinaison 4. Avec à Marimont, Anne-Françoise Rasseau, Annie Corazzini et Mélanie Thierry. Et à Framerie, dans l'atelier Bruno Robe, Éric Lambé et Bruno Robe. Enregistrement été 2017. Deuxième marché du livre à Marimont, par Thierry Genico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Nadia Corazzini fait partie du comité organisateur du marché du livre et Anne-Françoise Rasseau est à la fois médiatrice au Musée Royal de Marimont et une des grandes chevilles ouvrières pour l'atelier du livre.
Deuxième marché du livre à Marimont.
Des passionnés, des familles, des professionnels qui viennent durant tout ce week-end découvrir le travail d'éditeur de création.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Les places de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez voir ça, Kim.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinski.
Authentique, me tento, tententententum, stélé.
Le Monde Invisible.
Qui a un souci graphique dans son travail, qui travaille le rapport texte-image. Le support aussi, le choix du papier, sont vraiment des créateurs dans leur travail d'édition. En fait, on est dans vraiment des petits tirages.
Et souvent aussi des petites structures, puisque une des spécificités de ces maisons d'édition, c'est de travailler avec un petit nombre de personnes, parfois même le fondateur et des proches. Et donc, ça veut dire qu'au niveau humain, ça implique aussi une diffusion du livre qui est différente, les éditeurs justement de création ne sont pas nécessairement diffusés en librairie, etc. Donc, c'est un travail que le grand public ne connaît pas nécessairement. Et donc, le marché du livre, c'est vraiment l'occasion de montrer ce travail de recherche et création dans le domaine du livre.
On présente des livres, effectivement, qui sont des expressions artistiques. Et parfois aussi, ce sont des textes illustrés par un peintre, un photographe. Donc on a vraiment ces deux types de livres, même plusieurs encore. Hein. Il y a les livres-objets, livres-jeux, enfin, vraiment dans les livres hors normes, où chaque livre a un souci particulier de la part de son créateur. Donc il y a vraiment un travail sur chaque livre, en fait. Pas forcément de collection.
Deuxième marché du livre à Marémont. Et le livre Variation et déclinaison 4. Demain dès 16h, le 19 et le 20 octobre.
Ce qui est intéressant justement avec à la fois l'exposition et le marché du livre, c'est qu'effectivement, comme le disait Nadia, il y a ce rapport effectivement entre le texte et l'image, mais il y a aussi un rapport avec la matérialité du livre, qu'effectivement on parle de livre-objet, mais on parle aussi, ben, finalement, le titre est choisi pour ça, la déclinaison du livre. Finalement, ce n'est pas que le livre qu'on peut ouvrir en format poche qui s'ouvre d'une page à l'autre. On peut vraiment jouer avec les techniques, jouer avec la matérialité, se poser aussi les questions, comme le disait Nadia, par rapport au support, par rapport au papier, par rapport au graphisme, même par rapport à l'objet en tant que tel avec lequel on peut finalement s'amuser. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ben justement dans les salons finalement un peu de littérature, c'est des termes qui peuvent faire un peu peur, qu'on peut croire justement pour un public très ciblé ou très spécialisé, mais justement c'est ça la force du marché du livre à Marémont, et les éditions précédentes l'ont vraiment bien montré, c'est qu'à la fois ben, les éditeurs, les graveurs, les auteurs, les créateurs viennent à la rencontre du public. Il y a des réels moments d'échange, et ce public, ben, on l'a prouvé à de maintes reprises, c'est justement cette tous les passionnés du livre, mais qui vont des enfants, puisqu'il y a une part de littérature pour enfants, une part de création, on va dire, plus juvénile, jusqu'à justement les passionnés plus aboutis, plus connaisseurs.
Alors peut-être diversion, mais j'entendais derrière passionnés, ceux qui sont passionnés par le livre, ceux et celles, souvent sont collectionneurs. Et quand on parle marché du livre, le livre constitue aussi un marché de plus en plus important et de plus en plus recherché. Anne-Françoise Rasseau.
Il y a un véritable public de bibliophiles, mais pas seulement. Et ça, on le remarque aussi. C'est peut-être un des avenirs du livre, finalement. C'est le fait que le livre devienne un objet plastique, et il continue à être l'objet littéraire qu'il a pu être pendant longtemps. Et du coup, le public peut se diversifier aussi. Et on remarque que, par exemple, beaucoup de familles sont sensibles à cet objet, et que le livre au sein même de la famille est un espace de médiation ou la possibilité de passer du temps ensemble. Et donc, avec l'évolution du marché du livre, puisque c'est la 12e édition, on remarque que le public, l'éventail du public s'élargit. Et donc, voilà, on parvient, par exemple, à toucher ce public familial qui va être sensible à l'objet livre.
Nadia Corazzini. Oui, on touche aussi ce public familial dans la programmation à travers beaucoup d'animations, en fait, aussi. On propose des rencontres avec des illustrateurs, mais aussi des espaces plus ludiques ou de création de livres, des espaces pour les familles. Donc, parfois seulement enfants, mais familles. Donc, le marché du livre n'est pas seulement une vitrine d'éditeurs, mais c'est aussi un lieu de rencontres, parfois de spectacles, d'exposition, puisque outre l'exposition de l'atelier du livre, cette année, Paul Cox, qui est notre invité d'honneur, propose deux expositions inédites ici ce week-end pendant le marché du livre.
À noter que le Salon d'art situé rue Hôtel des Monnaies au 81 à 1060 Bruxelles présente Chemin faisant, exposition de Paul Cox, du 21 octobre au 21 décembre.
Paul Cox est une figure importante des arts graphiques, connue internationalement, un touche-à-tout. C'est un peintre autodidacte qui réalise aussi des affiches pour des grands théâtres, des scénographies, des jeux, du matériel pédagogique même, et des livres. L'espace livre l'intéresse, le questionne, et il crée des livres hors normes, hybrides. On en a deux exemples ici. Il y a le livre « Cependant », dont le sous-titre est le livre le plus court du monde. C'est un livre avec une reliure à spirale qui propose ce qui se passe en quelques secondes partout dans le monde. Des enfants qui jouent, une personne blessée, quelqu'un qui fait son jardin, quelqu'un qui regarde par la fenêtre, un hélicoptère. Et alors, au niveau graphique, on est dans une représentation presque de pixels, comme ça. On dirait même un jeu de points de croix, dans un choix de couleurs très limité. Et Paul Cox aime beaucoup les contraintes. Il se fixe comme ça quelques contraintes pour expérimenter et développer son espace de liberté créative, en fait.
Anne-Françoise Rassou.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il joue avec l'objet livre. Il perturbe un peu les codes que nous connaissons par rapport à cet objet. Et ici, par exemple, pour Cependant, c'est un livre qui ne comporte pas de couverture. Il n'y a pas de couverture. Et donc, n'importe quelle image peut être en toute première position et invité à ouvrir le livre. Et donc, en fait, il travaille l'image, il travaille le concept, mais il travaille aussi l'objet. Il y a vraiment ce souhait de déconstruire, en fait, nos habitudes du livre et de jouer avec ces habitudes. Le livre n'est pas son seul terrain de jeu. Et c'est aussi ça qui est intéressant, et je pense que ça correspond bien aussi à l'esprit du marché, c'est qu'il y a le livre, et donc on l'a dit, le livre traditionnel ou beaucoup moins traditionnel, mais il y a aussi le prolongement du livre. Il y a le livre en dehors du livre, il y a les histoires que l'on peut vivre en dehors du livre, il y a, par le biais de spectacles, il y a toute une série d'échos par rapport au livre lui-même, des choses à vivre. Je pense aussi aux ateliers, on est dans le prolongement du livre. On peut faire, on peut imaginer, et donc voilà, on sort de l'objet lui-même, mais voilà, il est toujours là, on le prolonge.
Mélanie Thierry.
Pour l'avoir fait en tant que reporter photo, on va dire, les années auparavant, on sent véritablement que les personnes, comme le disait Anne-Françoise, c'est des personnes qui viennent présenter leur travail et pas juste un représentant, un diffuseur ou un éditeur extérieur. C'est vraiment la personne qui a vécu avec son œuvre, qui vient la présenter au public, et on ressent justement cette part d'intimité, cette part d'une personne qui s'exprime face à une autre personne et pas juste un produit, entre guillemets, qui est échangé de main à main.
Alors, il y aura un atelier proposé par une petite maison d'édition qui s'appelle PPF, Première Pression à Froid, qui est une maison d'édition française. Cette petite maison d'édition a conçu un outil qui s'appelle le modulographe, qui consiste en tampons. Ce sont des tampons qui comprennent des formes géométriques, et on peut créer, en associant ces tampons et l'impression de ces tampons, on peut créer des lettres, des formes, etc. Et donc, il y a un travail typographique qui est proposé. Et donc, le texte qui est dans le livre est revisité, est complètement revisité dans toutes les possibilités graphiques et créatives qu'il permet.
Annie Corradini.
On essaye à chaque édition d'inviter des éditeurs étrangers, qu'ils soient voilà, français, italiens, anglais, on essaie aussi d'ouvrir en Belgique et d'avoir des éditeurs flamands aussi.
Dans cette émission, je vais me rendre chez Bruno Rob, l'éditeur, le graveur.
En tout cas, l'atelier retiré dans la ville qu'Ephraimerie, mais c'est simplement parce que c'était l'atelier de mon grand-père, que j'ai toujours connu, et équipé notamment d'une énorme machine lourde et qui imprime les lithographies. Et donc pour démarrer, c'était plus pratique de rester à Frameries. Je me suis posé des questions. Est-ce que je vais bouger vers une capitale, une grosse ville? Et finalement, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était intéressant d'être là où je suis parce que je suis retiré de tout. Et quand on vient travailler chez moi, on ne vient que pour ça.
Mais encore...
Il fait partie justement de ces petits éditeurs qui ont un travail extrêmement professionnel.
Contrairement à ce que vivent des confrères, par exemple à Paris, où on est dans une effervescence formidable, mais voilà, donc les choses sont différentes chez moi. Et j'en ai fait un moteur finalement.
Une Europe travaille avec de grands noms. Il y a aussi le souci d'organiser la trace, donc son travail d'estampes et de publication de livres d'artistes.
Michael Woolworth, qui est un ami et qui est un grand imprimeur, grand éditeur, et que voilà, on se côtoie et il est venu ici. Moi, j'ai découvert son atelier. Qui vit avec une énergie extraordinaire. Voilà,
Et c'est par l'outil, par la presse que je pense à lui et à vous.
Oui.
Est-ce que votre grand-père avait ces presses du 19e siècle qui sont increvables?
Oui, mais en effet, c'est ça. Ce sont des presses qu'on ne va plus fabriquer, donc elles sont précieuses, mais heureusement costaudes. Et on travaille toujours avec ces outils-là. Donc j'ai fait entrer dans l'atelier des outils plus contemporains, plus modernes. Mais cette presse litho, ce qu'on appelle machine plate, qui accueille des grandes pierres et qui imprime toujours les travaux pour les artistes actuels qui fréquentent l'atelier.
Il fait partie de ces éditeurs qui sont sélectionnés au niveau du marché du livre, d'une part parce que le travail, le rapport entre le texte et l'image sont importants, mais aussi, voilà, il fait partie justement de ces petites structures.
Pour une Europe, votre grand-père.
Mon grand-père, qui s'appelait Arthur, donc qui était un lithographe, un grand chromiste, donc qui était capable de reproduire des œuvres en décomposant les couleurs et en les imprimant par estampes successives pour leur donner vie. Donc c'était une prouesse qui demandait une sensibilité aussi extraordinaire. Il a accueilli aussi beaucoup d'artistes de son époque ici à l'atelier. Donc moi j'ai grandi avec cette atmosphère que j'avais sous les yeux, j'habitais pas très loin. Et donc, de fil en aiguille, il m'a transmis les rouages du métier. J'ai travaillé avec lui. J'ai eu cette chance de travailler quelques années avec lui en parallèle à mes études. Et puis, à son décès, donc peu de temps après mon parcours à l'école, aux Beaux-Arts de Mons, j'ai repris la succession de l'atelier.
Et aussi, de façon particulière, puisqu'il est reconnu internationalement et qu'il est basé dans le Hainaut et qu'on vient à lui de partout, de Paris et d'ailleurs.
C'est vrai, c'est vrai.
Je me souviens de Gabriel Beljeune, qui est venu régulièrement ici. Edmond Dubrunfaux a beaucoup travaillé ici aussi. Quelqu'un comme Lismonde, qui a beaucoup marqué mon imaginaire et qui m'a beaucoup impressionné par ses venues et son travail abstrait. Il a travaillé avec David Nash aussi, un sculpteur anglais, avec qui j'ai eu la chance de collaborer aussi lors de sa première visite et 10 ans plus tard aussi. Donc c'est assez beau de prolonger comme ça cette rencontre plus tard. Voilà, des gens comme Fiakowski aussi, un artiste polonais, un graveur polonais avec qui avait travaillé mon grand-père. Je pense à Antonio Segui aussi.
Le côté intéressant, finalement, peu importe le lieu, tout est une question de gens et d'individus, de rigueur aussi. Et c'est vrai que le contraste entre le lieu, quand on va visiter son atelier, enfin, c'est fabuleux, on est à Frameries, c'est presque improbable.
La vocation d'un atelier comme celui-ci, c'est d'accueillir des expressions très différentes, très diverses. Et notre rôle, c'est de s'imprégner de l'univers de chaque artiste. Et de collaborer, de proposer à travers les outils qu'on utilise, de leur proposer un moyen d'expression souvent nouveau. On y reviendra peut-être, mais en tout cas ce qui me passionne, c'est de travailler justement avec des artistes qui ne sont pas graveurs, qui ne sont pas techniciens, et de les embarquer dans des sentiers, vers des chemins qui sont complètement insoupçonnés et qui sont déroutants, et du coup, selon moi, riches.
Le marché du livre fait partie des missions de l'atelier du livre depuis quelques années. Atelier du livre qui est un centre de formation rattaché au musée royal de Marivaux.
Accueilleriez-vous un artiste artiste américain qui travaille à la tronçonneuse, à la scie électrique.
Je vois à qui vous pensez. Évidemment, je serais ravi de travailler avec quelqu'un comme lui, mais il a son atelier à Paris. Je pense à Michael Woolworth qui collabore depuis longtemps avec Jim Dine. Cette idée de travailler avec des outils particuliers me passionne aussi. C'est vraiment ce qu'on propose. Donc on a évidemment la tradition de la technique, donc la lithographie qui demande de travailler avec des corps gras par exemple, certains crayons calibrés, des encres prévues pour ça. Mais j'aime aussi chercher, provoquer et proposer des outils complètement nouveaux, singuliers, en fonction de ce que chaque artiste développe comme expression.
Avec les presses de son grand-père.
Oui, tout à fait. Oui. Qui tournent toujours. Hein. Ce sont des presses qu'il utilise encore.
Anne-Véronica Janssen, par exemple. Donc, c'est une artiste dont j'admire énormément le travail, avec qui je souhaitais travailler, et qui n'a pas de travail matérialisé par le dessin, en tout cas la peinture. Et donc, quand elle est venue ici, on a cherché des moyens de donner vie, de concrétiser à travers l'édition son œuvre. Et on a utilisé du texte, une phrase qui, je pense notamment à une litho qui dit « une image différente dans chaque œil ». On a joué avec cette phrase qu'on a imprimée en négatif sur un fond fluo, un aplat irrégulier, et donc qui provoque sur la rétine la couleur complémentaire. Donc le texte est blanc et on lit un texte qui est bleu. Donc voilà, c'est ce genre de choses. On n'est pas du tout dans les faits, mais on est dans la justesse par rapport à son œuvre. Et donc ça, c'était pour moi une magnifique alchimie de pouvoir donner vie de cette manière-là à une œuvre comme celle d'Anne Véronica.
Presque la sculpture pour cet élève de Tarpin.
Là, on entre dans une troisième dimension. Oui. Dans le conceptuel, on est dans le palpable et dans l'impalpable à la fois. Donc il y a une magie à travers cette œuvre qui est fascinante. Bon, il y en a plein d'autres comme ça.
C'est une commande de Mel. Mel, c'est Michel-Édouard Leclerc, qui est en fait dans les magasins Leclerc, qui est en fait un très grand acheteur de planches de BD d'originaux. Et il a aussi une fondation en Bretagne. Je crois qu'il a une collection de 10 000 planches, je pense. Ça fait un paquet d'années qu'il s'est mis à collectionner la bande dessinée à la fois par goût, plaisir, et aussi parce qu'il se rendait compte que les pouvoirs publics français ne s'intéressaient pas tellement à la bande dessinée. On s'occupait des arts contemporains, beaucoup, peu de la bande dessinée, donc il a décidé d'investir là-dedans pour ces deux raisons. Donc il y a un côté un peu mécénat et un plaisir de sa part. Et donc de là, il a l'envie de créer des œuvres avec les auteurs qu'il a dans sa collection, mais qui serait à un prix plus abordable, et aussi de faire fonctionner, de faire travailler tous ces ateliers de lithographie qui ont parfois encore un peu de mal, qui sont pas toujours très... Enfin, je crois que vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est surtout sur la France, sur Paris, que ça se trouve, les ateliers. Donc quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ben voilà, moi j'avais jamais fait de litho, j'avais envie d'en faire. Ils m'ont dit, on peut te proposer un atelier à Paris ou je ne sais plus, ou un autre un peu en dehors de Paris. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle Lucas Hureau, qui s'occupe en fait de gérer un peu la collection. Et il est très, très attentif. C'est lui qui cherche les ateliers, c'est avec lui qu'on est en contact. Il veut toujours être... il veut recevoir des photos, de voir le travail avancer. Il est très, très impliqué. Et donc, lui, il s'est rendu compte qu'en Belgique, il n'y avait pas beaucoup d'ateliers, mais il a trouvé Bruno, et que moi, je ne connaissais pas avant. Et donc, je lui ai dit, c'est à 40 km de Bruxelles, je ne vois pas pourquoi j'irais travailler à Paris. Je vais faire la connaissance de Bruno et je vais travailler avec lui dans son atelier.
J'ai le projet de travailler avec Éric Lambé, qui est plus de l'univers de la bande dessinée, dite alternative, qui vient d'avoir le Grand Prix d'Angoulême cette année, et qui va venir travailler sur les pierres en noir et blanc, et puis le travail sera accompagné de couleurs imprimées au pochoir. Donc ça, c'est aussi une spécialité de l'atelier depuis peu, mais qui me fascine, parce qu'on peut imprimer non plus avec des encres à l'huile, mais avec de l'aquarelle, donc des encres à l'eau, qui vont avoir une vibration très particulière et complémentaire des encres à l'huile. Donc voilà, c'est une technique traditionnelle, on pense à Épinal, c'est d'ailleurs là que j'ai découvert ce processus, mais que je propose au monde actuel.
Enfin, j'ai fait une bande dessinée avec Philippe de Pierrepont, qui est aussi cinéaste. C'était le quatrième livre qu'on a fait ensemble, qui s'appelle « Paysage après la bataille ». Ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble, en fait. Et on a eu la chance de gagner le prix du meilleur album à Angoulême, donc c'est-à-dire le Fauve d'Or. avec un livre qui est dit difficile. J'appartiens un peu à une bande dessinée dite d'avant-garde, donc beaucoup liée aux éditions Frémok, qui sont mes éditions, sorte de famille en fait, éditoriale.
Oui, j'ai pensé que c'était peut-être intéressant parce qu'on discute de la fabrication de la couleur. Là, je mets en route le travail. Donc, j'ai par exemple fait un premier test de gris. Qui était une piste, et puis on a décidé en fonction du premier résultat de lui donner une allure un peu plus chaude en rajoutant un peu de rouge, de jaune dedans. Donc là je nettoie la machine, je vais remettre la nouvelle teinte et on va voir si l'orientation est mieux, quoi.
Et cette machine qu'on vient d'entendre
Donc ça c'est une presse à contre-épreuve. Donc c'est par rapport à la machine qu'on a utilisée tout à l'heure qui est appelée machine plate. Donc, qui permet d'imprimer à partir de pierres lithographiques. Ici, j'imprime à partir de plaques de métal. Et donc, je vais prolonger le tirage qui a été fait à partir des pierres. Je vais le prolonger avec une autre technique, mais complémentaire, qui est en fait l'évolution logique de la litho. Donc, ce sont des plaques offset. Donc, c'est le principe de répulsion du gras et de l'eau, comme la pierre, mais à partir de plaques photosensibles. Donc, le dessin a été fait à partir de film transparent qu'on a insolé sur une plaque qui ensuite est développée et puis qui est ancrée avec les mêmes encres que la litho sur pierre, et donc les deux se combinent entre elles parfaitement avec chacune leur propriété, leur singularité et leur spécificité, quoi.
Bruno Rop, le numérique a-t-il franchi la porte de votre atelier ?
Oui, évidemment, ça me fascine. Je suis intéressé et très, très intrigué par tout ce qui est nouveau et qui concerne l'image imprimée. L'ordinateur a une place importante dans l'atelier maintenant. J'ai par exemple travaillé avec Latoya Ruby Fraser, qui est une photographe américaine, qui a eu l'occasion d'exposer son travail dans un important projet au MAX, au Musée d'art contemporain du Grand Ornu.
Ça récompense, je pense, notre travail, ça récompense aussi toute cette bande dessinée dite indépendante, dite parfois un peu difficile, qui a du mal aussi à toucher son public, parce que parfois n'a pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir. Et là, par exemple, ce prix, je pense que ça va aider à ce qu'il y ait un peu plus de reconnaissance sur tout ce monde de la bande dessinée qui, depuis 20 ans, travaille dur, et souvent bénévolement, pour défendre une bande dessinée faite avec amour et passion, quoi.
Pour une résidence dans laquelle elle a rencontré les anciens mineurs de la région, par exemple. Elle a photographié la région à travers 51 photolithographies et d'autres tirages argentiques. Et donc ça, c'est l'exemple de passerelle entre le numérique et la technique traditionnelle. C'est-à-dire qu'elle a aimé le travail de photolithographie que je pratique depuis quelque temps. Et elle m'a proposé d'imprimer donc cette série de 51 grandes photolithographies. Donc elle travaille à l'argentique. Le travail était ensuite numérisé, décomposé en plusieurs passages de noir, et ensuite basculé vers les presses traditionnelles lithographiques pour donner naissance à ces photos qui sont constitué de plusieurs passages de noir et qui propose des densités très fortes, veloutées par les papiers qu'on a choisis, etc. Donc c'est vraiment une approche de la photo très particulière, qui ne rivalise absolument pas avec d'autres techniques, mais qui a ça, une vie singulière. Et c'est ce qui m'intéresse pour le cas, quoi.
Peut-on visiter votre atelier ?
Oui, bien sûr. Oui. La fameuse machine plate qui permet d'imprimer les grandes pierres lithographiques. Puis plus loin, on a une autre machine qui est une presse à contre-épreuve qui me permet d'imprimer à partir de plaques photosensibles des photos du texte. Donc vraiment la suite de l'évolution de la litho. Donc les deux machines sont devenues complémentaires, on combine souvent les deux techniques entre elles. Et puis on peut y voir aussi dans cet atelier des presses manuelles, comme la presse à bras, donc avec laquelle je fais les essais, par exemple, à partir des pierres, avec les artistes. Donc on réalise les bons à tirer, par exemple, tous les tests couleurs, les essais, ou des éditions plus réduites.
La bande dessinée avec d'autres médiums, donc ça peut être la bande dessinée et la danse. Il y a une envie d'aller en dehors du livre, en fait. Le socle, si on veut, c'est la bande dessinée. On est tous les auteurs, à peu près tous les auteurs publiés par Frémaux, qui sont des gens qui viennent du monde de la bande dessinée et où leur premier amour, leur premier travail se trouve là. Mais avec l'envie d'aller voir ailleurs ou de le porter en dehors des frontières, enfin pousser un peu les frontières de la bande dessinée et aussi parfois intervenir tout à fait ailleurs. Donc il y a, je sais pas, quelqu'un comme Dominique Goblet, qui est une auteure qui est assez reconnue là maintenant, qui travaille beaucoup l'exposition, l'installation. Donc son dernier livre là, qu'elle a fait avec Kai Pfeiffer, a vraiment un débouché aussi dans les galeries, dans l'exposition. C'est pas juste exposer les planches. Quelqu'un comme Thierry Van Hasselt aussi, qui est un peu la cheville ouvrière des éditions, qui vient de faire un livre là, où il travaille avec un artiste trisomique. Et donc il y a beaucoup de connexions avec un centre pour handicapés qui s'appelle l'AS à Vielsalm. Donc il y a plusieurs artistes de Frémaux comme ça qui ont travaillé en collaboration. Les livres sortent au fur et à mesure là.
Par contre, j'accueille aussi beaucoup d'artistes qui dessinent, parce que la lithographie au départ est une technique qui est merveilleuse pour le dessin et le geste, puisqu'elle est proche, elle peut accueillir des gestes proches que ceux que les artistes dans leur atelier vont donner à leur papier, à leur toile. Donc on dessine sur la pierre, on peint sur la pierre, avec quelques contraintes, puisqu'on doit par exemple penser en miroir, comme toutes les techniques d'estampes. Mais la lithographie a la faculté de pouvoir restituer toutes les finesses, toutes les matières que l'artiste va lui confier, à condition que je fasse bien mon travail.
Michael Matisse aussi, oui, bien sûr.
On avance en binôme, en équipe. Et donc évidemment, voilà, on a beaucoup d'artistes, graphistes, dessinateurs, peintres, qui fréquentent les lieux pour ça aussi.
Je parle, c'est parce que lui, je le vois moins souvent, parce qu'il habite Charleroi et... Mais j'ai vu une exposition dernièrement. Effectivement, lui aussi, il a un travail qui sort fort du champ de la bande dessinée et qui est fort. Il a la chance d'avoir rencontré un galeriste qui s'appelle Cérami sur Charleroi. Et à eux deux, ils portent le travail de Michael dans le monde des galeries.
Quoi. Alors, je pense à Charles Ekaize, par exemple, qui est un fidèle de l'atelier depuis le tout début, qui est venu faire ses premiers lithos à l'époque où je démarrais, où je lançais les presses, et qui vient régulièrement, il va venir prochainement, qui dessine, qui est fasciné par l'objet qu'est le caillou, la pierre, et qui dessine ses personnages sur les pierres, toujours en noir et blanc. C'est quelqu'un qui s'exprime à travers le noir et blanc. Et là, pour ça aussi, la lithographie est extraordinaire parce qu'elle a la faculté d'imprimer des noirs d'une densité phénoménale. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très particulier.
Mon travail, c'est un peu, comment dire, c'est un univers sans doute très poétique.
On a en tout une quarantaine d'exposants pour cette édition-ci. Alors il y a quelques exposants qui sont des fidèles au poste depuis plusieurs marchés. Et puis effectivement, il y a une volonté, justement dans cette volonté de faire découvrir, et à la fois au public, mais aussi au monde de l'édition, ben, on a chaque année des nouveaux arrivants et on a vraiment une tournante, entre guillemets, à défaut d'un meilleur mot, de ces différents talents et de ces différentes maisons et de ces différents créateurs pour justement... Ben, continuer à alimenter cette notion de recherche et ces notions d'échange. Et on est vraiment, comme le disait Anne-Françoise, on est à la fois dans la découverte du livre, mais on est aussi véritablement dans l'expérience du livre. Je pense que ça, c'est un mot important, que ce soit pour le marché ou que ce soit pour l'exposition. On est vraiment dans un rapport à la fois créateur et public de l'expérience du livre et pas uniquement de la lecture, entre guillemets.
Je cite souvent David Lynch parce que pour un film comme Eraserhead, qui me semble avoir été vraiment un choc pour moi sur mon travail d'auteur est quand même fort lié à des problèmes de narration, pas forcément d'histoire, mais de narration, de construction d'univers. Effectivement, j'ai beaucoup de mal à séparer l'image d'un processus narratif, quoi. Même ici où les lithographies sont des sortes d'images séparées, c'est pas un livre, c'est quand même des séries, j'arrive pas à en faire qu'une. Donc quelque chose comme Eraserhead, quand j'ai vu ça, j'avais 18 ans, ça m'a vraiment secoué Et donc ça m'a amené au surréalisme, ça m'a amené à m'intéresser à des choses plus picturales que la bande dessinée, sans doute. En fait, j'ai jamais été un virtuose. Donc ça a toujours été difficile de dessiner, difficile de savoir aussi quoi raconter. Tout a été toujours très très difficile. Même à la fin de mes études, je ne savais pas du tout où j'en étais en sortant de troisième année de bande dessinée, après avoir fait des études artistiques, avoir essayé plein de choses. Je me demandais vraiment ce que je foutais dans ce monde de la bande dessinée. Et donc je me suis acharné pendant plusieurs années. Il a fallu 8-9 ans avant qu'un premier livre sorte, fait de petites histoires courtes. Donc je me suis acharné à créer un univers, emprunté à d'autres, à essayer de trouver une sorte de langage, à essayer de trouver quelque chose à exprimer et à le représenter. Je crois que j'en suis toujours là. Il est très attentif, très à l'écoute, beaucoup. Je sens qu'il aime vraiment porter le travail des gens, parce qu'il est lui-même aussi peintre au départ, je pense. Hein. Je suis assez touché par le fait que c'est son grand-père qui avait cet atelier avant, cette continuation familiale. L'attention qu'il a très fine, alors qu'en fait c'est un procédé quand même, quand on voit la machine qui fait 6 tonnes. C'est des grosses pinces, c'est de la grosse encre. Tout ça pour faire des choses quand même qui sont des images après, qui sont presque tenues avec des gants blancs, sans doute par des hommes avec des costumes. Quelque chose de fin, d'un produit de luxe, mais qui est fait d'une manière très brute, et je trouve qu'il incarne assez bien ça, avec ses grosses mains aussi. Et en même temps, beaucoup de tendresse, je trouve. Voilà, après, on ne se connaît pas encore très bien. Mais...
Tiens, quelle matière enseignez-vous ?
La bande dessinée, cours d'atelier à Saint-Luc-Bruxelles.
Vous savez que David Lynch fait aussi de la graphie ?
Oui, je sais, oui.
J'avais vu l'exposition.
Oui, j'avais vu l'expo, c'était à la Louvière, c'est ça ? Oui. Oui, Lynch, je connais un peu quand même presque tout.
Vous le connaissez, lui ?
Non. Je sais qu'on lui a offert le fils du roi. Donc je suis très fier qu'il l'ait eu dans ses mains. Après, j'ai pas eu de nouvelles. Mais... Un petit mail, ça aurait été marrant. Mais... Éric Lambé.
Lambé,
oui, c'est
vous
ça.
Vous écrivez ça ?
L-A-M-B-E, accent.
On parle de livres d'artistes à la fin des années 60, début des années 70, il y avait cette intention pour les artistes de rendre accessible, de faire en sorte que tout un chacun ait la possibilité d'acquérir une œuvre réalisée par un créateur. Et ça fait partie effectivement des premières intentions, mais très vite il y a une réalité qui rattrape l'intention, et donc le marché de l'art devient très vite spéculatif, et donc certaines œuvres qui, c'est vrai au départ, étaient tout à fait abordables, maintenant ne le sont absolument plus. Et c'est une réalité. Maintenant, au niveau du travail des éditeurs actuels, il y a un large panel, il y en a pour toutes les bourses, franchement, enfin... Ce qui est un peu particulier dans ce type d'événement, c'est qu'il y a des trésors partout. Et il y a des trésors qui, je pense, sont vraiment accessibles à des bourses très, très différentes.
Mon travail se divise un peu entre un travail solitaire.
Ceux qui viennent justement au marché, il y a effectivement les collectionneurs.
Mélanie Thierry.
Mais on a aussi justement les curieux, on a ceux qui sont venus peut-être une édition précédente, qui se sont plus et qui reviennent. On a ceux qui découvrent pour la première fois, qui ont peut-être été attirés par l'affiche de Paul Cox ou qui simplement en ont entendu parler. On est vraiment dans un marché qui se veut ouvert à tous. tellement ouvert à tous d'ailleurs que l'accès au marché est gratuit, ça c'est important de le préciser aussi. Donc c'est un week-end festif mais accessible dans tous les sens du terme. Et effectivement, comme le disait Anne-Françoise, le mot de salon ou le mot de marché ou le mot de monde de la littérature, du livre, peut effectivement faire peur à ce côté, la petite bourse de tout un chacun, mais effectivement on peut vraiment trouver des trésors dans chaque objet. Et effectivement, il y en a qui sont tout à fait accessibles. Moi, j'ai acheté une œuvre l'année passée et elle m'a coûté un petit 5 euros et j'en suis ravie. Je la vois tous les jours en me réveillant.
Françoise Rassou.
Il existe une structure qui s'appelle l'Atelier du Livre de Marimont, qui est une ASBL et donc qui est une sorte de satellite du musée, mais qui est intimement liée au musée, puisque l'origine, c'est la collection bibliophilique et le fait de proposer des ateliers de reliure, en fait, pour mieux comprendre les livres. Et donc, c'est comme ça que l'atelier est né en 1991 avec des ateliers de reliure, et puis il s'est développé, et aujourd'hui, la programmation comprend non seulement de la reliure, mais aussi de l'illustration, de la gravure, des livres-objets, des livres-sculptures. Enfin voilà, la programmation permet d'aborder le livre dans sa construction, mais aussi dans son contenu, dans le fait de, dans la narration, dans le... Et effectivement, tous ceux qui sont intéressés par le livre ou par la démarche sont les bienvenus. Et dans le public, dans notre public, on a aussi bien des jeunes qui sont aux Beaux-Arts ou qui font des études de reliure que des grands-parents qui font des livres pour leurs petits-enfants. Donc c'est un public qui est assez large et qui recherche en fait ces formations, des formations qui proposent un point de vue essentiellement technique, pour ce qui est surtout de la reliure, mais aussi un point de vue de création. Et donc, on a des stages qui encouragent tout à fait cette dynamique de création.
À vous écouter, Anne-Françoise Rassou, je pensais au fondateur du lieu où nous parlons, Marimont, Moirouquier. Il était collectionneur de beaux livres, n'est-ce pas ?
Oui, il était collectionneur de livres et à 16 ans, il acquiert déjà une belle collection d'éditions luxueuses d'auteurs anciens. Sa collection de livres, c'est une des collections les plus importantes du musée et c'est une collection qui est particulièrement invisible puisque pour des raisons de conservation, elle ne peut pas être montrée au public. Et donc, on peut avoir l'occasion de visiter la réserve précieuse qui est petite partie visible de l'iceberg de la collection bibliophilique. Mais effectivement, c'est un héritage. Et en fait, cet héritage a pris ces multiples formes qui sont à la fois l'étude avec la dimension scientifique que ça représente, mais aussi l'expérimentation, la création. Et donc l'atelier du livre, c'est quand même assez génial dans un lieu culturel, enfin muséal, va apporter une dimension de création. Alors qu'un musée se consacre essentiellement à la conservation, à l'étude, à la publication, à l'exposition, à la communication. Mais donc là, l'atelier du livre apporte cette dimension de création au lieu muséal.
Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de décloisonner, de rester dans l'univers de l'image imprimée avec toute la noblesse que ça peut comporter, donc ces encres... ces encres à l'huile, ces encres résistantes à la lumière, tous ces papiers formidables, soit faits de pur coton, parfois industriel, suivant les expressions des artistes. Et donc de proposer tout un panel d'outils aux artistes qui viennent ici. Et puis ensemble, on fait les choix les plus justes par rapport à leur expression.
Deuxième marché du livre à Marimont, c'est 18, 19 et 20 octobre. Demain 18 octobre à partir de 16h. Ainsi que le livre Variation et déclinaison 4.
L'exposition donc, qui va ouvrir ses portes en même temps que le marché du livre, donc les deux sont inaugurés le même jour ce week-end. L'exposition s'intitule « Le livre, variation et déclinaison 4 ». 4 parce qu'il s'agit du quatrième volet de ce panorama qui est proposé, qui reprend les créations qui émanent des différents stages et ateliers au cours des dernières années. Et donc ce sont des livres qui sont créés par les participants aux stages, ateliers permanents, etc., mais aussi par les formateurs. Et donc le but est de montrer aussi tout le travail dans le sens du design du livre, la recherche qui foisonne en fait dans ce domaine-là.
En tout cas, le choix du papier, c'est fondamental. Certains éditeurs pensent qu'il n'existe qu'un papier pour une édition. Bon, moi, je pense qu'on peut élargir un peu la pensée, mais c'est en tout cas, c'est le support qui va recevoir tout le travail. Donc, c'est fondamental d'y penser, de trouver la justesse, le parfait équilibre entre l'expression de l'artiste, la manière dont on va imprimer le travail, et de voir comment il va être accueilli par ce papier. Donc on utilise des grands classiques, des papiers en pur coton, qui sont à la fois nobles mais discrets, pour ne pas prendre le dessus sur le travail qu'on va imprimer. Mais il m'arrive d'imprimer sur des papiers pauvres. On pourrait aller dans l'extrême du papier journal. Donc c'est un papier, on sait très bien qu'il ne va pas résister aux aléas du temps, mais s'il est bien protégé, bien conservé, il n'y a pas de souci, et ça peut porter le travail si ça se justifie, quoi. Des papiers industriels aussi, qui sont souvent utilisés.
Les papiers anciens ?
Les papiers anciens, ça m'intéresse beaucoup, mais je me rends compte que j'utilise un peu moins les papiers faits à la main, parce que justement, je les considère très présents. Et le choix que je fais, en tout cas, les artistes avec qui je travaille, finalement, c'est vraiment une constatation, c'est pas un choix délibéré, mais je me rends compte que ce sont pas les papiers qui reviennent... Au contraire, j'aime choisir des papiers magnifiques, mais à la fois discrets, donc qui vont révéler le travail, mais qui ne vont pas prendre le dessus sur l'œuvre.
Il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine de l'illustration, hein, au niveau des techniques. Il y a énormément de choses intéressantes et nous allons chercher des spécialistes de certaines techniques. Je pense par exemple à Bernadette Gervais qui a développé et qui a perfectionné la technique du pochoir. Donc elle est illustratrice jeunesse depuis de nombreuses années, c'est un exemple. Mais il y a aussi l'atelier du livre offre tous les 3 ans une bourse pour un relieur qui travaille en reliure de création. Et donc cette bourse encourage la recherche dans le domaine de la reliure.
L'état d'esprit de l'atelier, c'est d'être ouvert à tout. Donc si un artiste vient avec des propositions... Oui, des choix de papier particuliers, on va réfléchir ensemble, on va voir si ça a du sens, si techniquement c'est jouable, et si voilà, si l'œuvre, si l'alchimie peut fonctionner entre toutes ces combinaisons.
Avec Amarimon, Anne-Françoise Rasseau, Annie Grazzini et Mélanie Thierry. Bruno Rampe, quel est votre métier ?
Simplement dire que je suis imprimeur, lithographe, éditeur, mais déjà voilà, ça fait 3 mots. Il est assez compliqué à définir à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers. Donc à la fois c'est passionnant parce que ça m'embarque dans des explications qui m'intéressent.
Et à Framerie, dans l'atelier Bruno Rampe, Éric Lambé et Bruno Rampe.
Je pense tout particulièrement à Denis Grégoire qui a proposé une reliure qui s'appelle la reliure à la ligne en utilisant un matériau qui est tout à fait atypique pour la reliure classique, puisqu'il utilise du fil de pêche, du fil de nylon. Et donc il va étudier la conservation de ce fil, il va étudier le travail éventuel de ce fil avec le temps, et s'assurer que ce matériau est durable et va permettre au livre de vivre longtemps. Et donc là, on est véritablement dans le domaine de la recherche. Et donc ces bourses donnent lieu à une publication, qui a une forme de manuel qui permet de réaliser cette technique, et également un des stages. Donc la technique est enseignée.
Résumer ça, imprimeur-éditeur, en précisant lithographe, parce que le monde de l'imprimerie est vaste aussi.
12e marché du livre à Marimont, par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.